Notre vie en église au rythme de l'année liturgique. Réalisé avec Jean-Marie Dujardin et Armand Gall. Chers amis, nous retrouvons Jean-Marie Dujardin, laïc dominicain à Lille. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Armand.
Aujourd'hui, nous poursuivons sur le thème de l'Avent avec les textes des différents dimanches. Le premier est le dimanche 2 décembre. Parlez-nous-en.
Alors, ce premier dimanche de l'Avent, le 2 décembre, j'ai bien regardé mes textes, met l'accent sur l'attitude active, dirais-je, qui doit être celle du chrétien en route sur le chemin de la justice, sans ménager sa peine. Alors là, ici, je voudrais faire un petit développement sur la notion de justice. Quand on parle de justice, on pense souvent à la justice que rendent les hommes, c'est-à-dire que celui qui fait quelque chose de mal, qui est contraire à la loi, au contraire aux règles de vie de notre société, eh bien, se fait épingler, hein, par la justice, justement. Il peut être traduit devant les tribunaux, et puis il copé d'une peine, ou d'être, ou s'il n'est pas jugé coupable, être relaxé. C'est un peu l'idée que nous avons de la justice. Alors, si vous voulez, je voudrais dire que c'est pas le seul sens, en tout cas, hein, que l'Évangile nous invite à considérer, que les textes saints nous invitent à considérer. Jésus est venu montrer à l'homme ce qui est juste. Hein? Et ce qui est juste, eh bien, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Jésus est venu montrer que ce qui est juste, c'est d'établir en quelque sorte le règne de l'amour. C'est ça qui est juste. Et en même temps, il est venu justifier la multitude. Alors, la justification, c'est le fait que, comme tous les hommes sont pécheurs, hein, et ils ont tous, même s'ils sont baptisés, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin d'être justifiés, c'est-à-dire d'être purifiés, lavés, en quelque sorte, par la grâce que le Christ nous gagne, hein, par sa venue parmi nous, son enseignement, et puis sa passion et sa résurrection. Donc, nous sommes des êtres qui sommes appelés à devenir des justes par la justification que le Christ nous apporte. Voilà, pour cette petite parenthèse sur la justice.
D'accord.
Et puis, alors, la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie annonce clairement à la venue du Christ, hein, que le prophète désigne par le terme, justement, j'y reviens, le prophète désigne Jésus par le terme « germe de justice » qui naîtra dans la maison de David. Et la deuxième lecture, Saint Paul se fait l'écho de cette attente vigilante dans sa lettre aux Thessaloniciens. Et il nous exhorte, comme je disais tout à l'heure, à l'amour, les uns pour les autres. L'amour qui justement, là on est bien en phase, hein, qui justement est chemin de justice et de sainteté. Quand on aime, on ne commet pas l'injustice. Hein. On ne ment pas, on ne vole pas, etc. L'amour est vraiment un chemin de justice. Lequel chemin ne va pas pour le chrétien sans la veille et la prière, qui nous relie en permanence à Dieu, sans lequel, nous le savons bien, nous ne pouvons rien faire. Hein. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut être justifié. Quant à l'évangile du jour, de ce premier dimanche de l'Avent, l'évangile qui constitue, comme tout un chacun le sait, la troisième lecture pour chacune de nos Eucharisties. Le troisième dimanche de l'Avent, c'est Saint Luc, c'est l'évangile de Luc, dans lequel Jésus nous invite justement encore et encore à la veille, dans la prière et l'attente de son retour. Et Jésus nous dit, il tient un langage un peu musclé, hein, il faut relire ce texte. Et il nous dit « Tenez-vous sur vos gardes ». Nous sommes donc bien dans le contexte du deuxième avènement du Sauveur, au cours duquel toute justice sera rendue. Voilà, la vraie justice. Et puis ensuite, nous arrivons au deuxième dimanche de l'Avent.
Oui.
Alors, ce dimanche, la première lecture est tirée du livre du prophète Baruch. Moi, j'aime beaucoup ce temps de l'Avent parce qu'il y a vraiment des très, très beaux textes. Cette lecture du livre du prophète Baruch est pleine de poésie. Elle est très, très, très belle, cette lecture. Le prophète nous annonce que Dieu ramènera son peuple sur sa terre. Et la lecture se termine par ces mots. Je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'elle est longue, cette lecture.
Oui, oui.
Se termine par ces mots. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Voilà, oui. On y revient à la justice.
Effectivement.
Et c'est justement ici, la miséricorde est là. Il y a le mot miséricorde, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. C'est bien la miséricorde de Dieu, hein, qui découle de son amour infini, qui nous justifie. Et puis, dans la deuxième lecture, saint Paul nous exhorte encore à aimer. On y revient, on n'en sort pas, c'est comme ça, c'est l'amour, c'est la racine de tout. Saint Paul nous exhorte à aimer de façon à orienter notre discernement vers ce qui est le plus important. Le plus important, c'est l'amour, bien sûr. Alors, je le cite, hein, je cite quelques mots. « Ainsi, dit-il, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. Et ce jour, justement, c'est celui de son retour en gloire. Hein, nous sommes donc bien dans le deuxième avènement du Christ. » Et puis, dans l'Évangile, nous allons retrouver ça. Saint Luc évoque le ministère de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste qui criait dans le désert, aplanissait le chemin, préparait la route, etc., redressait les sentiers, bouchait les trous, etc., rabotait les bosses, enfin bref. Hein. Et tout son propos est orienté vers le terme de la conversion des cœurs, dans l'attente du retour du Sauveur. On voit donc bien, parce qu'à l'époque où Jean-Baptiste crie ça dans le désert, Jésus a déjà né. Hein. Il ne s'est pas encore manifesté, sa vie publique n'a pas commencé, mais il est né. On voit donc bien, ainsi que souligné tout à l'heure, que les deux premiers dimanches de l'Avent sont tout orientés vers le deuxième avènement du Seigneur. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions à poser, Armand, je vais passer au troisième dimanche.
Oui, allez-y, le dimanche 16 décembre.
Oui, voilà, donc c'est le dimanche 16 décembre, où toute la liturgie est ici tournée, nous arrivons là, vraiment le premier avènement du Christ, hein. Toute la liturgie est ici tournée vers la nativité du Sauveur, qui est annoncée dans l'Ancien Testament par les prophètes. Hein. Et là, nous sommes bien dans le contexte de la naissance du Christ parmi nous. Alors, le prophète Sophonie, dans la première lecture, il va de tout son enthousiasme. Hein. Il faut lire aussi ce très très beau texte. Je cite simplement quelques mots. Hein. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. C'est plein de couleurs tout ça, c'est superbement beau. Hein. Nous sommes donc en plein dans la ferveur de l'attente joyeuse du Sauveur. Et ici, il s'agit bien, je le redis, de préparer son premier avènement fêté à Noël, effectivement. Alors, dans la deuxième lecture, saint Paul aux Philippiens, saint Paul s'adresse aux Philippiens, et saint Paul est exactement au même diapason, hein, les mêmes dispositions. Je cite quelques mots. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Sophonie nous pousse des cris de joie, fille de Sion. Saint Paul dit, frère, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Il me semble que l'on peut penser, pour faire une petite observation personnelle, que dans notre monde, aux sombres aspects, hein, il n'y a pas de quoi se réjouir actuellement, c'est un peu inquiétant, hein, sombres aspects à de nombreux égards. Hein. Le chrétien qui vit sa foi en vérité, qui peut être tenté de se décourager, parce que c'est pas beau ce qu'on voit, hein, mais il ne doit pas céder à ses inquiétudes, lesquelles sont bien sûr à prendre en compte, hein, c'est pas rien. Il y a des choses qui sont inquiétantes dans notre monde. Mais l'Église nous appelle particulièrement à entendre que nous sommes conviés à l'espérance et à la joie. Parce que malgré tout, c'est, comment dirais-je, Christ aura le dernier mot. L'amour de Dieu, l'amour que Jésus est venu nous révéler, aura le dernier mot. Et puis en troisième lieu, Saint Luc, dans son évangile, nous présente Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le dernier des prophètes, et puis aussi le plus grand, hein, parce que c'est celui qui précède Jésus. Hein. Jean-Baptiste qui annonce lui aussi la manifestation imminente du Christ. Il nous dit ceci, il vient, hein, celui qui est plus puissant que moi. Hein. Et bon, moi j'observe que il annonce la vie publique du Christ, bien sûr, qui est né à l'époque, bien sûr, quand il dit ça, et qui vient derrière lui, qui n'est pas loin du tout, et que nous avons retrouvé assez vite, hein, dans le baptême de Jésus, au début de sa vie publique, hein, qui suit pas très loin de la liturgie. Et Jean-Baptiste, dans son enseignement, invite les juifs de son époque, et tous ceux qui rencontrent d'ailleurs, pas seulement que les juifs, mais tous les hommes, toutes les femmes, enfin tout le monde, Jean-Baptiste invite à pratiquer la justice, encore une fois, oui, la justice, et le partage. C'est-à-dire, eh ben, on y revient, à aimer. Hein, cet appel à l'amour du prochain est véritablement une constante de la liturgie de ce temps de l'Avent, et même, je crois qu'on peut dire, par extension naturelle, une constante de tout l'enseignement de l'Église, enseignement qu'elle tire justement des évangiles et des textes saints, enfin de la Bible. Voilà.
D'accord.
Et nous arrivons ensuite au quatrième dimanche.
Le 23
là,
décembre.
Nous entrons de plein pied.
Oui.
Dans l'extrême préparation au Noël. Alors, dans la première lecture du quatrième dimanche, nous assistons à quelque chose qu'il faut relever, je crois. C'est que se rejoignent l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est assez sensible. Dans la première lecture, le prophète Michée annonce que Jésus va naître à Bethléem. C'est le premier qui annonce ça, hein. Il annonce que Jésus va naître à Bethléem et qu'il sera, dit-il, le berger d'Israël. Il prononce le mot de berger. C'est un mot que Jésus reprendra plus tard. Alors, par extension, nous pouvons souligner, c'est ça qui est important, que Jésus est le berger de son Église. Et l'Église étant le nouvel Israël, en quelque sorte, hein, la nouvelle Jérusalem à venir, bien sûr, mais on voit avec ce mot de berger que l'Ancien Testament et le Nouveau se rejoignent tout à fait. Jésus vient incarner le Nouveau Testament et accomplir l'Ancien Testament. Dans la seconde lecture, la lettre aux Hébreux attire notre attention, c'est les paroles du psaume 40. Ce psaume qui évoque les dispositions de cœur et d'esprit du Fils de Dieu entrant dans le monde. Alors je voudrais dire que la lettre aux Hébreux, finalement on ne sait pas qui l'a écrite. Hein. Moi j'ai longtemps pensé que c'était Saint Paul, mais je me trompais, ce n'est pas Saint Paul. On ne sait pas vraiment qui a écrit la lettre aux Hébreux. C'est peut-être Saint Marc, enfin, certains pensent que c'est Saint Marc. Donc, notre attention est attirée sur ce que dit le psaume 40, qui évoque les dispositions de cœur et d'esprit du Fils de Dieu qui entre dans le monde. Et je cite voilà un petit passage. Tu n'as voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors on voit que, d'une part, la perspective du salut est ici parfaitement dessinée, hein, me semble-t-il. Et puis on voit, on découvre cette osmose, si je puis dire, cet amour unique qui existe entre le Fils et le Père, dans l'unité de l'Esprit. Hein, le Père, le Dieu veut absolument sauver les hommes, et comment dirais-je, ce ne sont pas les sacrifices que lui offrent et les offrandes que lui offrent les hommes qui peuvent assurer le salut de l'humanité. Hein. Il n'y a que lui, il n'y a que son amour qui peut faire ça, et bien il envoie son amour sur la terre, en l'occurrence il envoie son Fils, qui est sa parole, qui est son Verbe, qui vient nous révéler son amour. Hein. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est ça, la volonté de Dieu, à propos de Jésus, c'est que son Fils révèle aux hommes son amour, sa face, son infinie miséricorde. Voilà, très belle leçon dans ce texte. Mais je dois dire que, pour parler de la troisième lecture, que ce qui est très attendu aussi, en ce quatrième dimanche de l'Avent, c'est la place toute particulière qui est faite à la Vierge Marie dans l'évangile de Saint Luc. Hein, cet évangile qui nous rapporte la visite de la Vierge Mère à sa cousine Élisabeth. Alors nous pouvons, et nous devons, avec Élisabeth, saluer celle qui est bénie entre toutes les femmes. Et louer Dieu pour la foi de Marie. Louer Dieu pour la merveille, en quelque sorte, qu'il accomplit en Marie, qui nous donne notre Sauveur, hein. Celle qui croit la première, hein, le modèle de tous les croyants. Je crois que Marie est la première des évangélistes, je crois qu'on peut dire ça, hein. Elle nous donne le Sauveur du monde. Et c'est ce que nous évoquons, là dévier un petit peu, mais pas tellement, c'est ce que nous évoquons dans le deuxième mystère joyeux de notre rosaire, que nous pouvons particulièrement méditer en ce temps de l'Avent, qui est vraiment un temps de grâce particulier. Ce deuxième mystère de notre rosaire, qui est le mystère de la Visitation, hein, où nous voyons Marie qui, après la visite de l'ange, hein, de l'Annonciation, Marie qui apprend que sa cousine Élisabeth, qui est très âgée et qui a toujours été stérile, elle est enceinte depuis 6 mois. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire.
Oui.
Et alors elle doit se dire, elle est vieille, elle est âgée, elle doit avoir besoin d'elle. Voilà. Et Marie, en quelque sorte, elle fait ni une ni deux, elle n'hésite pas. Hein, elle a 15 ans. Hein, et elle se met en route, vraisemblablement, parce qu'il y a 100 kilomètres entre l'endroit où habite Marie et Élisabeth. Il y a 100 kilomètres qui les séparent, 100 kilomètres de désert, pratiquement. Elle se met en route, vraisemblablement avec une caravane, parce que je ne vois pas une jeune fille de 15 ans toute seule dans le désert. Hein, et elle va se mettre au service. Et je trouve que cette image de Marie qui va se mettre au service est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été baptisé moi-même dans une église qui s'appelle Notre-Dame de la Visitation, mais ce mystère de la Visitation a toujours été pour moi très, très accrocheur. Je trouve que c'est l'un des plus beaux mystères de notre rosaire. Ils sont tous magnifiques, bien évidemment, mais celui-là me touche particulièrement. Hein. Voilà, et Marie, eh bien, elle nous donne le Sauveur, elle nous donne le Sauveur du monde. Et je pense qu'il est bien, très très bien, quand ce quatrième dimanche de l'Avent, l'Église mette l'accent sur le rôle de Marie dans l'Église, Marie qui est vraiment une figure incontournable, dirais-je. Oui, vraiment, je suis pas le premier à l'avoir dit, hein. Une figure incontournable de l'Évangile. Voilà.
Et peut-être une chose qu'on pourrait ajouter pour ce dimanche 23 décembre, puisque cette année, donc le 23 décembre, c'est la Saint-Armand.
Ah, alors voilà, eh bien, il faudra que je songe à vous appeler pour vous souhaiter la fête.
C'est exactement.
Super. Très bien, très,
merci,
très bien.
Merci Jean-Marie.
Bravo, bravo. Voilà, d'accord.
Merci beaucoup Jean-Marie. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série d'émissions sur l'Avent, où nous verrons les différentes traditions. Je rappelle que vous êtes laïc dominicain à Lille. À très bientôt pour une nouvelle émission au rythme de l'année liturgique. Notre vie en Église au rythme de l'année liturgique. Une émission qui a été réalisée par Jean-Marie Dujardin et Armand Gall.